Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
Bienvenue au podcast Sac du cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine au podcast, je vais avoir comme invité l'ancien receveur de passe de la Ligue canadienne et de la NFL, Samuel Giguère, en compagnie de Samuel. Bon, on va faire un retour sur la défaite des Alouettes lundi après-midi au Staples Molson contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Ça a vraiment été une opportunité ratée de la part des hommes de Danny Machocha de s'assurer d'une place en éliminatoire. Et on va également parler des rencontres qui ont retenu notre attention lors de la 5e semaine d'activité du côté de la NFL. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va se joindre à moi afin d'y aller de ses recommandations en vue du waiver wire pour la 6e. Oui, déjà, ça va être la 6e semaine d'activité du côté de la saison régulière de la NFL qui va commencer dès jeudi soir. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Samuel afin justement de discuter de cette défaite des Alouettes. Ah, Samuel, ça a vraiment été décevant. Parce que la table était mise pour les Alouettes. Ils jouaient à domicile. Lundi de l'Action Grasse, il y avait une très belle foule. Plus de 21 000 personnes au Staples Molson. Tout ce que les Alouettes avaient à faire afin de finalement de s'assurer d'une place en éliminatoire, c'était de vaincre la pire équipe de la Ligue canadienne. Ils ont été capables de le faire. Ils ont perdu contre Ottawa. Écoute, je te donne une page blanche. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de la rencontre, de cette contre-performance des Alouettes?
Ben, premièrement, je pense qu'il faut le souligner, là, tu l'as dit, là, plus de 28 000 personnes dans le stade, c'est toujours le fun d'entendre ça, de savoir qu'il y a un intérêt là, pour le football à Montréal, puis que les gens se déplacent pour venir voir l'équipe jouer. Surtout là, à ce temps-ci de l'année, là, on sait qu'au stade Percival Molson, c'est toujours une belle ambiance. Fait que ça me fait plaisir d'entendre. Ce qui s'est passé sur le terrain, ça me fait un peu moins plaisir par contre. Tu l'as dit, là, c'est leur deuxième défaite contre Ottawa à la maison. C'est dur, mais en même temps, c'est simple à expliquer. Du côté des Alouettes, on est allé 5 fois dans le red zone, dans la zone payante, puis on est sorti de là avec un touché. Alors, on a capitalisé sur une opportunité sur 5. Et David Côté fait un super beau travail, là, 4 bottés de 3 points dans le match. Mais reste que quand tu t'approches de la zone payante, ça prend des touchés. C'est comme ça qu'on gagne un match. Puis là, malheureusement, les Alouettes n'ont pas été capables de faire ça en fin de semaine.
Oui, écoute, ils ont laissé plusieurs points sur le terrain, comme tu viens de le dire. En plus de ça, bon, il y a eu des pénalités également. Des revirements de mauvais moments. Bon, les revirements toujours lors de mauvais moments. Mais on en avait parlé la semaine dernière. On avait posé la question à Danny Machocha s'il ne fallait pas se méfier du Rouge et Noir, étant donné que Ottawa venait de congédier son entraîneur-chef. Bob Dice est maintenant l'entraîneur-chef par intérim. Donc, c'est comme si du côté du Rouge et Noir, on a eu un regain de vie, là, d'énergie. Malgré tout, les Alouettes sont une équipe beaucoup plus talentueuse que la formation d'Ottawa. Puis de rater cette opportunité-là, Dieu seul sait qu'est-ce qui va arriver vendredi à Ottawa. Okay, c'est une très courte semaine. Les Alouettes vont avoir seulement un entraînement. L'entraînement va avoir lieu mercredi. Ensuite de ça, jeudi, ils quittent pour Ottawa et vendredi soir, ils vont affronter le Rouge et Noir à nouveau. Mais moi, je ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver lors de cette rencontre-là. J'aimerais croire que les Alouettes vont gagner, mais je croyais vraiment qu'ils allaient gagner lundi. Puis là, tu viens de donner de la confiance à Ottawa. Et puis, avec une courte semaine comme ça, là, parle-moi de ça, là, du défi justement de mettre derrière cette défaite-là et de regarder de l'avant avec si peu de temps pour se préparer. Au moins, on va affronter encore une fois la même équipe, mais 4 jours là, entre 2 matchs, c'est vraiment pas beaucoup.
Oui, tu as raison, là, mais c'est une semaine courte pour Ottawa aussi, d'une part. C'est pas comme si Ottawa avait plus de jours pour se préparer. Deuxièmement, à ce temps-ci de la saison, qu'on ait une pratique en moins, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas comme au début de la saison où chaque pratique est très importante. Puis comme tu l'as dit, on joue encore contre Ottawa. Donc, pour ce qui est là, de faire du vidéo, de regarder les tendances, de regarder ce que Ottawa fait en défensive comme à l'offensive, tout ça, on l'a déjà fait la semaine précédente. Donc, on va avoir plus de temps pour analyser le match qui vient de se passer. Mais reste que le fait que ce soit une semaine courte, je pense pas que ça va avoir beaucoup d'impact là, dans ce cas-ci.
Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Peut-être que ça va avoir un impact du côté de William Stambach. Stambach a préparé à son tout premier match depuis la première rencontre de la saison régulière. On s'en souvient, il avait subi une fracture à une cheville contre les Stampeders de Calgary. On lui a remis le ballon 8 fois, il a gagné 20 verges. Mais bon, je ne m'attendais pas à une étincelante performance à part de Stambach, étant donné que ça faisait quoi, 20 semaines qu'il n'avait pas joué. Donc pour lui, c'est une question de retrouver la forme d'ici la fin de la saison régulière et avant le début des éliminatoires. Si on est en mesure de se qualifier, j'ose croire qu'on va se qualifier pour les éliminatoires, là, tout ce qu'on a besoin, c'est soit d'une victoire ou une défaite des Tiger Cats de Hamilton pour le faire. Mais dans la défaite contre le Rouge et Noir, il y a une chose qui commence à m'inquiéter. Ce problème qui refait surface, c'est on n'est pas capable de générer de la pression, qu'on sent sur les carrières adverses du côté de l'unité défensive. Hier, Nick Arbuckle avait beaucoup de temps en fait de repérer ses receveurs de passe. Par moment, je sais qu'il se débarrassait rapidement du ballon, mais on ne l'a pas dérangé, on ne l'a presque pas frappé durant la rencontre. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète? Parce que là, les Alouettes ont joué 15 matchs. Là, on sait c'est quoi leur identité, puis ce problème-là, il est toujours présent.
Oui, tu as raison de soulever ce point-là. Quand Danny Matocha a pris les commandes de l'équipe, puis a amené Noah Thorpe comme coordinateur défensif, je pense que le match suivant ou deux matchs plus tard, là, il y avait eu un regain là, justement de pression sur le carrière adverse. Puis c'est vraiment la signature de Noah Thorpe, c'est ça en défensive, c'est d'amener beaucoup de pression et d'amener beaucoup de blitz, non seulement des blitz, mais des blitz exotiques, tu sais. D'amener des demi de coin en blitz, c'est pas rare là, dans son plan de match. Puis est-ce qu'il s'est éloigné de ça? Peut-être. Clairement, là, les quatre joueurs de ligne défensive, ils font pas le travail, mais là, est-ce que c'est à Noah Thorpe de justement là, amener de la pression autrement, amener ce qu'on l'a déjà vu faire, là, un halfback puis un corner weak side, donc deux demi-défensifs qui s'en viennent sur le côté court du terrain. Est-ce que c'est de descendre le demi de sûreté puis de l'impliquer à ce niveau-là? Ça reste à voir, mais comme tu l'as dit, c'est difficile de gagner quand le carrière adverse a tout le temps pour trouver ses receveurs.
Oui, en tout cas, c'est encore une fois, c'est une opportunité ratée par les Alouettes. Ils auraient pu se s'approcher des Argonauts de Toronto et du premier rang de la section même. Encore une fois, je le répète, ils sont toujours pas qualifiés pour les éliminatoires. Il reste 3 rencontres au calendrier régulier, dont la rencontre de vendredi soir à Ottawa. Alors, on va voir là, si les Alouettes, avec cette deuxième opportunité, seront en mesure seulement d'obtenir leur billet pour les matchs d'après-saison. On va se tourner du côté de la NFL, mais avant de parler des rencontres qui ont retenu notre attention, il y a un premier congédiement au poste d'entraîneur-chef du côté de la NFL. Matt Rhule n'est plus l'entraîneur-chef des Panthers à Caroline. Lundi matin, il a été congédié. Pour Matt Rhule, est-ce que ça se simplifie tout simplement par le fait qu'il n'a jamais été capable de trouver un carrière partant? Parce que lorsque je regarde les Panthers, puis je portais attention à leur match contre les 49ers de San Francisco dimanche dernier, lorsque j'étais au Red Zone avec Jasmin Leroux, les Panthers sont pas une mauvaise équipe. T'sais, on a des receveurs de passe, DJ Moore, Robbie Anderson, les deux ont déjà gagné 1000 verges, Christian McCaffrey dans le champ arrière. La ligne d'attaque pourrait toujours être améliorée, mais la défense a tenu le fort contre les Niners le plus longtemps possible. Les unités spéciales ont joué un bon match. Pour moi, c'est vraiment la position de carrière qui tient en otage les Panthers à Caroline. Baker Mayfield, encore une fois, il a été horrible. Au bout du compte, c'est ça qui a coûté le poste de Matt Rhule pour moi. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce congédiement à Caroline?
Oui, tu as raison. Je ne peux pas contredire ce que tu viens de dire. Baker Mayfield ne joue pas bien. Clairement, il ne joue pas bien. Un des pires corps de la Ligue statistiquement là, depuis le début de la saison. C'est pire qu'avant. Vraiment pire qu'avant. Mais reste que je pense que la raison première pour laquelle Matt Rhule a été congédié, c'est qu'ils sont une victoire, quatre défaites. Puis que je pense qu'il y a 11 victoires, 27 défaites là, depuis, depuis les deux années et demie maintenant là, qui est avec les Panthers. C'est ça. La raison pour laquelle il a été congédié, c'est parce qu'il n'a pas gagné assez de matchs. Tu sais. La raison pour laquelle il n'a pas gagné assez de matchs, c'est probablement parce que à la position de carrière, c'est pas fort. Mais reste que quand tu regardes dans la NFL, les Cowboys, qui on va en parler plus tard, mais qui ont perdu Dak Prescott durant la semaine 1 d'activité, ben, ils sont invaincus là, depuis ce temps-là. Tu sais. Je pense aux Browns de Sean Watson, leur corps partant, qui est sur le banc encore pour plusieurs semaines, puis qui n'a pas joué depuis le début de la saison. C'est Jacoby Brissett qui le remplace, qui est un corps substitutaire. Ben, les Browns, même s'ils ont perdu dimanche, ils font quand même bien. Là. C'est quand même une bonne équipe. Donc, je pense que le blâme repose, oui, sur les épaules de Baker Mayfield, mais repose essentiellement sur le groupe d'entraîneurs et Matt Rhule, évidemment. Quand tu as un corps comme Baker, qui est limité, je pense que là, on le connaît assez bien. Là, ça fait quoi?
On a des petits problèmes techniques, mais oui, comme Samuel le disait, bon, écoute, Baker Mayfield, il en est maintenant à sa deuxième équipe. Il avait été choix le tout premier choix du repêchage, je crois que c'était quoi, en 2017. Le temps va tellement vite maintenant par les Browns de Cleveland. Mais écoutez, avant Baker Mayfield, lorsqu'on regarde les carrières partant là, qu'on a eues en Caroline sous Matt Rhule, Teddy Bridgewater, on lui avait donné un gros contrat, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était la première erreur de Matt Rhule. Il ne faut pas oublier que Matt Rhule, non seulement il était l'entraîneur-chef, mais c'est lui qui était également en plein contrôle de toutes les décisions au niveau des opérations au football. Cam Newton est au bout du rouleau lorsqu'on l'a ramené. Sam Darnold, P.J. Walker et Baker Mayfield. Alors ça, c'est une brochette de carrière. Là. Je ne sais pas qui aurait pu connaître du succès avec ces carrières-là, Sam, mais comme ça a mentionné, c'est vrai, une fiche de 1 victoire, 4 défaites, fiche globale de 11-27 du côté de Matt Rhule. C'était pas... Il faut gagner. Ça, c'est simple. Il faut gagner si on veut demeurer en poste. Mais écoute, il ne faut pas sentir trop mal pour Matt Rhule, hein, Sam. Les Panthers lui doivent... Ouais, c'est ça. 40 millions de dollars, les Panthers lui doivent. Là, parce qu'il restait quoi? 3 ans, son contrat? Alors, faut pas sentir trop mal.
Le propriétaire, M. Tapper, tu sais, qui donne un contrat de 7 ans, 62 millions de dollars, à un entraîneur qui arrive des rangs universitaires. Oui, qui a eu beaucoup de succès dans les rangs universitaires, mais reste que quand on regarde là, les coachs qui sont passés, là, des coachs qui ont eu une longue carrière dans les rangs universitaires, dans la NCAA, des fois dans des gros programmes, mais qui n'ont pas nécessairement d'expérience dans la NFL, on les voit faire le saut, puis bien souvent, là, ça ne fonctionne pas. Alors, je me dis, pourquoi un contrat de 7 ans? Pourquoi pas un contrat de 3 ans avec option? Puis oui, OK, on te laisse 1 an, 2 ans pour établir une fondation, changer la culture, tout ça, mais reste qu'après la 3e année, il faut que tu te mettes à gagner, tu sais. Fait que peut-être que le Matt Rhule, ayant un contrat de 7 ans en poche, ayant tout cet argent-là garanti, faut pas l'oublier, c'est garanti ce contrat-là.
Ouais.
Est où la pression pour Matt Rhule? Est où le feu en dessous du cul, là, permets-moi l'expression, ouais. Là, tu sais, pour justement là, virer ça de bord rapidement puis faire en sorte que l'équipe se mette à gagner. Tu sais.
Peut-être qu'il pensait qu'on allait lui donner plus de temps également.
Oui, ben, clairement, tu sais, avec un contrat de 7 ans. Mais reste que la NFL, il faut gagner puis il faut gagner rapidement. Tu sais. Fait qu'encore là, je pense que si le propriétaire avait mieux structuré le contrat de l'entraîneur, peut-être que l'entraîneur aurait senti une pression de gagner plus rapidement, tu sais. Puis, tu sais, je veux revenir sur Baker Mayfield, tu sais, on en a parlé, il joue pas bien, mais il y a des choses il est capable de faire certaines choses bien, tu sais. Il y a des forces, il y a des faiblesses, Mais le rôle d'un entraîneur, c'est justement de trouver ces forces-là puis de les exploiter. Puis je pense que Matt Rhule n'a pas été capable de faire ça. Tu sais, t'as Christian McCaffrey dans le backfield. Tu sais, viens pas me faire croire que t'es pas capable d'avoir un game plan à chaque semaine où tu peux justement cibler les forces de Baker Mayfield puis exploiter l'arme offensive que tu as en Christian McCaffrey. Regarde l'offensive des Giants de New York. Tu sais, t'as Daniel Jones. Excuse-moi, Daniel Jones, c'est pas le meilleur passeur qui existe, mais le coordinateur offensif fait beaucoup de formations avec deux ailiers rapprochés, un receveur, des fois deux receveurs. Quand on court le ballon, oui, mais quand on fait un play action, on roule à notre droite ou à notre gauche, là, c'est facile, tu sais, on identifie un 2 contre 1, on a une cible, deux lectures, sinon on a un petit dump-off au running back. Fait que tout ça fait en sorte que la game est simplifiée pour Daniel Jones. Pourquoi du côté des Panthers, on ne fait pas la même chose avec Christian McCaffrey puis Baker Mayfield? Mm. Fait que, encore une fois, la responsabilité, oui, est sur les épaules à Baker, mais je pense que le gars qui a perdu sa job, Matt Rhule, c'est celui qui avait la plus grosse part de responsabilité là-dedans.
Ouais, c'est bien que tu mentionnes le nom de Christian McCaffrey parce que hier, il y a des équipes qui n'ont pas perdu de temps à la suite du congédiement de Matt Rhule. Il y a quelques équipes qui ont contacté les Panthers à Caroline afin de savoir s'ils seraient intéressés à échanger Christian McCaffrey parce que là, clairement, c'est une saison de perdu. Alors, les autres équipes s'essayent pour aller chercher certains des bons joueurs des Panthers. Alors ça va être quelque chose à suivre au cours des prochaines semaines avant la date limite des transactions. Est-ce qu'on va se mettre en mode vente de feu du côté de la Caroline? En tout cas, ça va être à surveiller.
Si le directeur général ne veut pas perdre sa job lui non plus, il devrait pas échanger Christian McCaffrey.
Oui, en tout cas, écoute, on va suivre ça. On va se tourner vers les rencontres qui ont été disputées, du moins les rencontres qui ont retenu notre attention. On va commencer avec le match du lundi soir parce que ça a vraiment été un bon match serré, divertissant entre les Raiders et les Chiefs de Kansas City. Kansas City l'a finalement emporté par 1 point 30-29 contre Las Vegas. Et les Raiders s'étaient forgé une avance de 17-0. Là, ils se retrouvent quand même avec une fiche de 1 victoire et 4 défaites. Moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là, que, comme je le disais tout à l'heure, qui a été très divertissante? Alors, je crois qu'on a un petit problème technique du côté de Samuel. Alors, pendant qu'on trouve une solution, justement, ben écoutez, je vais vous parler de cette rencontre-là entre les Raiders et les Chiefs. Comme je le disais, Las Vegas se menait 17-0. Une chose que je veux parler tout d'abord, c'est l'arbitrage. Parce que l'arbitrage a été très mauvais au cours de cette rencontre-là. On a vu Chris Jones être pénalisé pour avoir rudoyé Derek Carr, alors que pourtant, il avait été en mesure de plaquer Carr, de lui arracher le ballon, de provoquer un échappé. Et puis, on a jugé qu'il a atterri trop violemment sur Derek Carr. À un moment donné, c'est du football. Qu'est-ce que tu es supposé faire? Et dimanche, on a vu un scénario similaire. Lorsque, vers la fin du quatrième quart, dans le match entre les Falcons et les Buccaneers, Tom Brady a été victime d'un sac du cœur par Grady Jarrett. Grady Jarrett l'a projeté au sol. C'est un plaqué, c'est du football. C'est la raison pour laquelle on porte casque et épaulettes. On lui a donné une pénalité pour rudesse. La séquence des Bucs était terminée. Pénalité de 15 verges qui donne un premier essai à Tampa Bay. Ça a peut-être coûté le match pour les Falcons. Les Falcons qui livraient une excellente bataille à leur rivaux de section. Ils étaient en plus de ça privés des services de Cordarrelle Patterson. Et puis là, l'arbitre Jerome Boggart qui décerne une pénalité pour avoir rudoyé carrière alors que c'était simplement un plaqué. Je me demande ces décisions-là qu'on voit des arbitres, là, c'est pas finalement une conséquence de qu'est-ce qui est arrivé avec Tua Tagovailoa lorsqu'il a subi sa deuxième commotion cérébrale contre les Bengals de Cincinnati. Là, j'ai l'impression qu'on va trop loin, là, afin de protéger les carrières. Ça n'avait pas de bon sens, là, ces pénalités-là contre Chris Jones. Heureusement, les Chiefs ont gagné le match. C'était un gros jeu, du côté de Kansas City. Ça s'était passé vers la fin de la première demi. Mais écoutez, comme je le disais, ça a été un match serré. Les Raiders ont eu une opportunité vers la fin de la rencontre de prendre l'avance. Mais malheureusement pour eux, leurs deux receveurs Devante Adams et Hunter Renfrow sont entrés en collision. Et puis ça a été le dernier jeu du match. Ça a été de cette façon-là que la rencontre s'est terminée sur cette passe incomplète. Travis Kelce a connu tout un match. C'est une drôle de statistique, hein, pour Travis Kelce. Ça a été quoi? 7 réceptions pour 25 verges et 4 touchés, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la première fois dans l'histoire des Chiefs qu'un joueur marquait 4 touchés lors de la même rencontre. Mais je me pose tout le temps la question, c'était la même chose la semaine dernière lorsque les Chiefs avaient vaincu les Buccaneers de Tampa Bay. On n'avait pas de plan de match afin de tenter de ralentir Travis Kelce. Il me semble qu'on l'avait jamais doublé durant la rencontre. Ça a été la même chose du côté de la défense des Raiders. Je sais qu'on a des receveurs rapides du côté des Chiefs comme Mecole Hardman. On ne veut pas les laisser seuls à un contre un. Mais tu sais que près de la zone début, Travis Kelce est la cible de choix de Patrick Mahomes. Alors, comment ça, on n'avait pas un meilleur plan de match? Ça, je me l'explique vraiment pas. Je veux souligner la performance de Josh Jacobs des Raiders. Il a couru pour des gains de 154 verges au sol. Ça, c'est un sommet personnel. La semaine précédente, il avait gagné plus de 130 verges. Jacobs, lui, en tout cas, il peut quitter la tête haute. Il a vraiment connu un bon match. Et on attend toujours pour voir si on peut rétablir la communication avec Samuel Jigger. Je veux parler également de Devante Adams. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ce que Devante Adams a fait après la rencontre. Il était frustré, avec raison, alors que Samuel est de retour. Justement, bon, Samuel, tu parlais, je ne sais pas si tu as vu du geste de frustration là, de Devante Adams à la fin de la rencontre. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Moi, j'ai trouvé, écoute, ça n'avait pas de bon sens. Le photographe était tout simplement devant lui. Il l'a poussé, projeté au sol. Ensuite de ça, il a continué à marcher. Il est retourné au vestiaire. Je sais qu'il était frustré avec la défaite. Et ensuite de ça, il est allé sur ses réseaux sociaux, sur son compte Twitter, a présenté des excuses. Mais il disait, je me suis senti, j'avais des remords immédiatement après avoir poussé le gars qui était devant moi. Pourtant, quand tu regardes la vidéo, il a juste continué de marcher puis il est entré dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce geste? Moi, j'étais vraiment déçu de la part de Devante Adams. Puis, écoute, ça s'est passé aux États-Unis, donc on ne sait pas. Le photographe pourrait le poursuivre, puis ça serait dans son droit.
Oui, oui, tu as raison. Écoute, moi aussi, j'ai été très déçu. T'sais, Devante Adams, c'est quelqu'un habituellement qui est très calme. T'sais, en anglais, quand on dit c'est quelqu'un de high class, c'est un gars qui a beaucoup de classe, Devante Adams. On ne l'a jamais vu dans des situations comme ça auparavant. On ne l'a jamais vu se battre sur le terrain. Il n'y a jamais eu de situation à l'extérieur du terrain. C'est vraiment quelqu'un qui a un athlète qui a un comportement exemplaire depuis le début de sa carrière. Donc, pour moi, c'était pas dans son comportement habituel, tu sais. Oui, j'ai été déçu. Non, évidemment, ça n'a pas sa place, tu sais. Et puis, comme tu l'as dit, le pauvre photographe, tu sais, est en droit peut-être d'intenter une poursuite, mais reste que...
Il va toucher le gros lot, en tout cas, s'il poursuit.
Ben, écoute, c'était une petite poussée, là. Écoute, tu sais, je veux pas défendre le geste de Devante Adams. Tu sais, clairement, ça n'a pas sa place. Mais reste que, sans excuser le geste, je peux le comprendre, tu sais, Devante Adams est extrêmement frustré. Les Raiders sont maintenant 1 victoire, 4 défaites. Tu sais, on a la même fiche que les Panthers, on en parlait tantôt. Tu sais, fait que oui, il y a beaucoup, beaucoup de frustration. Surtout que quand Devante Adams s'est amené avec les Raiders, on pensait que ça allait être une grosse, grosse saison pour eux. Alors, sans excuser le geste, tu sais, je le comprends. Je comprends la frustration de Devante Adams. Puis, tu sais, je crois qu'il est sincère là, dans le fait qu'il s'excuse puis qu'il regrette son geste.
Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
J'ai beaucoup de misère avec ça. Le photographe était juste ça devant lui. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui le narguait ou quoi que ce soit. Là. Il était juste devant lui. Il aurait pu attendre que le photographe passe. C'est tout à fait gratuit. C'est tout à fait gratuit. En plus de ça, t'es un joueur de football, t'es plus gros que le photographe. Non, pour moi, ça passe pas. Quand j'ai vu les images, ça m'a laissé vraiment un mauvais goût. Là. Je me suis mal senti en voyant ça. En tout cas, j'espère qu'il va trouver une façon de s'excuser face à face avec le photographe. Parce que d'envoyer des excuses comme ça juste sur Twitter, pour moi, t'as mis tes mains sur quelqu'un, tu l'as poussé, t'es allé d'un geste violent. ça prend plus que des excuses sur Twitter. Pour moi, il faut que Adams s'excuse face à face. Il faut qu'il trouve une façon de le faire. Et comme tu l'as dit, avant ça, il n'a jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Il était frustré. J'ose croire qu'il va faire la bonne chose et qu'il va essayer d'en faire plus afin de s'excuser à nouveau auprès de cette personne-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Là, ça va être la sixième semaine qui va commencer jeudi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses au niveau de la saison de la NFL. Il y a plusieurs équipes qui ont des fiches de 4 victoires, 1 défaite. 3-2, c'est des dossiers gagnants. Mais je ne suis toujours pas convaincu qu'ils sont nécessairement de bonnes équipes. Écoute, on va y aller en parlant bon, justement de la victoire des Chargers contre les Browns. Les Chargers ont gagné 30-28 à Cleveland. Ah, Brandon Staley, l'entraîneur-chef des Chargers, a encore fait des scènes, mais il est chanceux, il s'en est tiré avec une victoire. La situation, on est tard dans le quatrième quart. On fait face à un quatrième essai et 2. Les Chargers sont dans leur territoire, okay, à leur ligne de 46. Ils ont l'occasion d'y aller de botter de dégagement et de forcer Jacoby Brissett à traverser le terrain pour faire gagner les Browns. Au lieu de ça, on tente de convertir le quatrième essai 2. Là, tu donnes un court terrain aux Browns. Heureusement, le botteur de Cleveland a raté sa tentative de botter de précision. Donc, les Chargers se sont sauvés avec la victoire. Mais écoute, qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là et en particulier de cette décision de Brandon Staley? Parce qu'on voit ça à travers la NFL depuis 2 ans en particulier. Je me dis, c'est comme ça qu'on tente de réinventer la roue, Sam. OK? en y allant avec des parents en quatrième essai ou en refusant de se contenter de botter de précision lors de certaines situations.
Ouais, écoute. Tu sais, souvent dans la NFL, quand on prend une décision puis ça fonctionne, on a l'air d'un génie. Quand ça fonctionne pas, on a l'air d'un idiot, tu sais. Mais ça, c'est une de ces situations-là. Mais reste que je peux comprendre la philosophie de Staley. Écoute, t'as la meilleure offensive là, dans la NFL. C'est les Chargers, tu sais. Justin Herbert s'est amené dans ce match-là avec le plus de verges par la passe de toute la NFL. Donc, il y a du succès en lançant le ballon. Alors, sur quatrième essai, est-ce que tu vas donner l'opportunité au meilleur corps arrière par la passe statistiquement d'aller chercher un premier essai? Écoute, je pense que l'idée est bonne. Clairement, ça a pas fonctionné. Ouais.
Mais non, tu es d'accord avec ta décision de Staley?
Je pense que mon niveau de confiance n'aurait pas été aussi élevé que le sien. Peut-être que j'aurais dit non, on va dégager, on va donner un plus long terrain aux Browns. Mais ouais, je peux comprendre.
Jacoby Brissett en plus, là. T'sais, c'est pas comme si c'était Aaron Rodgers qui allait prendre possession du ballon.
Mm-hmm. Non, moi, écoute. Je pense que je personnellement, j'aurais dégagé, mais je peux comprendre le fait que lui, il se dit non, moi, j'ai le meilleur corps arrière, j'ai la meilleure offensive. Écoute, il a lancé. La passe était destinée à Mike Williams, qui a un début de saison extraordinaire. Non, je peux comprendre le jeu qui a été appelé et la décision d'y aller sur 4e essai.
Ah, ben écoute, moi, je comprends absolument rien. Staley faisait ça la saison dernière également. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait non plus la saison dernière. Bref, il a été chanceux de se sauver de Cleveland avec une victoire. Écoute, samedi matin, les Giants, dimanche matin, oui, plutôt, ça se passait à Londres, les Giants. Ils ont vaincu les Packers de Green Bay par la marque de 27-22. Tu travaillais sur la diffusion de cette rencontre sur les ondes de RDS. Les Giants ont une fiche de 4 victoires et 1 défaite. J'ai de la difficulté à me faire à cette idée-là. Mais si c'est la réalité. Et toi et moi, on s'est croisés après la rencontre. Tu avais même de bons commentaires pour Daniel Jones. Est-ce que tu es rendu un fan de Daniel Jones, là, soudainement, Sam?
J'ai pas le choix. Écoute, j'ai pas le choix. Mais là, es-tu prêt pour ma réaction excessive?
Ah, ben c'est pas tout de suite. C'est tout à l'heure. On va dévoiler nos réactions excessives.
Ben, en fait...
Ça concerne Daniel Jones?
Je vais garder ça pour tantôt. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est...
Non, vas-y, pourquoi pas.
OK, ben allons-y d'abord. New York is back, oh baby!
Back comment, là? Back comment? C'est quoi? Ils sont des aspirants pour le Super Bowl. Ils vont finir en premier rang de la section. Ils vont devancer les Eagles et les Cowboys. Et pour les gens, il ne faut pas oublier que tu as porté les couleurs des Giants. Donc, t'as un petit parti pris, là.
Big ouais, Blue est toujours dans ton temps, raison. Je pense. T'as raison, mais écoute, tu sais, je me souviens des grosses années des Giants. Mais écoute, c'était un front défensif qui mettait de la pression. C'était un bon running game. Puis là, ce que je vois, puis un corps arrière qui est tough et qui réussit des jeux importants quand ça compte. Puis là, ce que j'ai vu des Giants en fin de semaine, c'est exactement ça. C'est un front défensif qui a mis de la pression sur Aaron Rodgers. C'est Saquon Barkley qui a couru de façon phénoménale. Il s'est même amené plusieurs fois en Wildcat, c'est-à-dire qu'il remplaçait Daniel Jones à la position de carrière, et puis il courait lui-même avec le ballon. J'ai vu Daniel Jones blessé, qui n'a même pas fini la game, ben, en fait, qui a dû finir la game, mais qui n'était même pas censé finir la game la semaine précédente, qui revient finir la game, après ça, qui prend l'avion, il traverse l'Atlantique, même pas supposé jouer, s'habille. Saquon Barkley se blesse à un moment donné. Lui qui il joue sur une jambe depuis le début du match, mais il va chercher des gros premiers essais en courant. Il lançait je pourrais même pas te nommer le nom des receveurs.
Des receveurs.
J'ai vu une fois puis je les ai déjà oubliés. Mais il a pas eu le choix de leur lancer le ballon. Il fait des gros jeux en lançant des passes difficiles. Puis en fin de match, ben ils ont été chercher la victoire. Fait que, moi, si tu veux mon avis pour une réaction excessive, écoute, oui, c'est probablement trop tôt pour le dire, mais si les New York continue à jouer comme ça puis à progresser comme ça en défensive, même en défensive, là, ils ont eu plusieurs blessures dans la tertiaire en fin de rencontre, puis ils ont quand même réussi à contenir Aaron Rodgers. Alors, pour moi, ça part vraiment du groupe d'entraîneurs. T'sais, on en parlait tantôt avec Matt Rhule qui n'a pas réussi à changer la culture de son équipe, mais Daboll, au contraire, à New York, lui, a fait ça en cinq matchs. Et puis, c'est son agressivité, son caractère, le fait, son sang-froid, tout ça, ça se traduit dans la performance de ses joueurs. Alors, pour moi, oui, les Giants sont l'équipe à surveiller.
Tu es sur le bandwagon des Giants, si je comprends bien. Là, tu vas nous ressortir ton chandail des Giants de New York que tu portais à l'époque.
Oui, oui, je suis sur le bandwagon, puis écoute, je suis assis en avant, là.
T'es assis en avant, OK, parfait. T'as acheté ton billet, puis là, t'es prêt, là. T'es en avant dans la première rangée. OK, bon, ben parfait, Sam, on va s'en souvenir, puis on va s'en reparler éventuellement. Mais écoute, il n'y a rien que je peux dire contre les Giants. Tu sais, j'ai 4 victoires, 1 défaite. Pour donner crédit au coordinateur de la défense, Wink Martindale, tu sais, tu parlais justement du groupe d'entraîneurs. Moi, j'ai pas compris pourquoi les Ravens ont pas gardé, mais Martindale, il a toujours connu du succès partout où il est passé. Là, ça, on voit ça du côté de la défense des Giants. Il y a le plaqueur Dexter Lawrence qui a connu un bon match. Tu sais, Lawrence, sa position de plaqueur, il amène de la pression directement dans le visage et carrière adverse. Il a vraiment dérangé Aaron Rodgers. Alors, écoute, Big Blue is back. Je peux pas te contredire jusqu'à présent avec une fiche de 4 victoires et 1 défaite. Donne-moi juste un peu de temps afin d'accepter cette nouvelle réalité, mais je suis toujours pas vendu sur le cas de Daniel Jones. Écoute, on va rester du côté de la section S de la nationale parce que, écoute, ça semble être la meilleure division de la NFL, du moins jusqu'à présent. Les Eagles, eux, ils ont vaincu les Cardinals de l'Arizona par la marque de 20-17. Les Cowboys, ils ont eu le déçu sur les Rams, 22-10. Puis bon, il y a Washington qui est dans la cave du classement de cette section. Ça va vraiment pas bien pour Washington. Les Eagles, ça a été une victoire de justesse, un match serré contre les Cardinals de l'Arizona, mais on peut pas gagner par 10 points ou plus à toutes les semaines. Je pense qu'ils ont démontré quand même de bonnes choses dans un match qui a été serré. On a créé une séquence à la fin du quatrième quart pour écouler du temps. Ça, il y a une crampe au cerveau de Kyler Murray qui les a aidés. Mais je veux parler des Cowboys de Dallas, des Cowboys qui demeurent invaincus sans Dak Prescott. Écoute, bon, on parle beaucoup de Cooper Rush, mais la réalité est qu'il a gagné seulement 102 verges par la passe hein, contre les Rams. Il n'a pas été la raison pour laquelle ils ont gagné les Cowboys, mais il n'a pas été la raison pour laquelle Dallas a perdu. Les Cowboys, leur recette, ça a l'air d'être simple. Tu sais, tu parlais de la recette des Giants lorsqu'ils ont connu du succès, gagné des Super Bowls, mais la recette des Cowboys, présentement, c'est le jeu au sol et la défense est tout à fait dominante là, du côté de Dallas. Qu'est-ce que tu penses justement de ce début de saison de la part des Cowboys et de leur performance contre les Rams?
Allô?
Je crois qu'on a... Oui, Samuel, est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends.
Oui, là, j'entends, on t'a perdu, oui. Non, je te demandais quel est ton compte rendu justement là, du début de saison des Cowboys et de leur victoire contre les Rams. Cooper Rush a gagné seulement 102 verges par la passe, mais c'est vraiment la défense et le jeu au sol là, qui permet à Dallas de connaître du succès, surtout le front de la défense qui est tout à fait dominant, bien sûr mené par Michael Parsons qui a réussi encore deux autres sacs du cœur.
Oui, écoute, tu l'as dit, là, la défensive des Cowboys, probablement la meilleure de la NFL en ce moment. Puis, tu sais, Michael Parsons, l'ailier défensif, le jeune ailier défensif, tu sais, qui a une super saison. Écoute, tu sais, je pense que le dernier jeu du match, c'est lui sur un strip sack, sur un sac du corps, puis en plus a fait échapper le ballon. Puis je crois qu'il était blessé en plus en fin de rencontre.
Oui, c'est blessé à l'aine durant la rencontre.
Il revient puis il fait ça, tu sais. Pour moi, la défensive des Cowboys, c'est vraiment, vraiment le fun à voir jouer. Puis quand tu as une défensive qui est si forte, mais ça enlève beaucoup de pression à ton corps arrière, tu sais. Puis encore une fois, quand dans ton champ arrière, tu as des porteurs de ballon comme Tony Pollard puis Ezekiel Elliott, encore une fois, ça enlève de la pression à ton carrière. Le travail est beaucoup plus facile pour Cooper Rush. Oui, tu l'as dit, il a juste eu à lancer pour 100 verges hier, mais il n'a pas eu besoin de faire plus. Il n'a pas causé de revirement. Même s'il n'y a rien de spécial dans ses performances, ben, c'est un jeu intelligent, c'est un jeu où on limite les erreurs. C'est pas le gars qui va faire gagner ton équipe nécessairement, mais c'est le gars qui peut la faire perdre, par exemple, parce que nécessairement, chaque joueur offensif, c'est lui qui a le ballon entre les mains pour commencer le jeu. Moi, je lui lève mon chapeau quand même. Là. C'est très difficile à faire ce qu'il a fait. D'être invaincu là, depuis qu'il a pris la barre de l'offensive, c'est vraiment le fun à regarder. Puis, sa connexion avec le receveur est bonne. Je pense qu'il y a une bonne chimie entre lui et CeeDee Lamb. Le receveur numéro un des Cowboys, versus que Dak Prescott puis CeeDee Lamb semblaient avoir entre les deux, tu sais.
Ouais.
Non, moi, les Cowboys sont excellents, puis tu sais, les Rams, moi, je pensais que ça allait être un gros test pour les Cowboys, un gros test pour Cooper Rush. Finalement, ça a été une promenade au parc, là, ces matchs-là.
Oui, absolument, absolument. Écoute, ça va être le moment pour moi de dévoiler ma réaction excessive parce qu'elle concerne les Rams de Los Angeles. Et ma réaction excessive, pour moi, c'est une réalité, mais étant donné là, que bon, il y a juste cinq semaines qui ont été jouées, ça demeure une réaction excessive. Mais les champions en titre du Super Bowl vont rater les éliminatoires, Sam. Ok, je te dis, les Rams, ça va pas bien là. Il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas. C'est pas du tout la même équipe que l'année dernière. Commençons par cette ligne à l'attaque-là qui a encore une fois accordé 5 sacs du cœur après en avoir accordé 7 la semaine précédente. Matthew Stafford ne va pas finir la saison à ce rythme-là. Je ne sais pas si tu l'as vu lorsqu'il fait frapper par Parsons vers la fin de la rencontre, il est resté au sol, c'est relevé, c'était long, c'était pénible. Il se fait tabasser semaine après semaine. Et puis, Sean McVay, il a changé son système. Lorsqu'on a fait l'acquisition de Matthew Stafford, souviens-toi, lorsque Jared Goff était avec carrière partant, bon, c'est vrai qu'on misait sur Todd Gurley, lorsqu'on a connu du succès, mais c'est comme si le jeu par la passe des Rams était soudé avec leur jeu au sol. Tu sais, leur jeu de passe, lorsqu'on utilisait le play action, ça ressemblait vraiment à leur jeu de course. Ça séparait la défense en deux, ça donnait des ennuis aux défenses adverses afin de s'assurer que est-ce que c'est une passe, est-ce que c'est une course. Donc là, c'est comme si on utilise la vieille attaque des Lions de Détroit à l'époque où Matthew Stafford jouait avec les Lions, où est-ce qu'on passait le ballon en trans. Le Stafford se faisait tabasser. Ton seul receveur est Cooper Kupp. Allen Robinson, on ne le voit pas depuis le début de la saison. Il est vraiment une déception. Au niveau de la défense, Von Miller n'est plus là. Aaron Donald, oui, je sais qu'il est toujours là, mais ça prend plus qu'un chasseur de corps. Leonard Floyd, c'en est un autre qu'on ne voit pas depuis le début de la saison. Il y a trop de problèmes du côté des Rams. Pour moi, je crois vraiment qu'ils vont rater les éliminatoires. Ça, c'est ma réaction excessive de la semaine. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop? Est-ce que tu penses que les Rams vont être en mesure de se redresser? Ou est-ce que j'ai raison?
Ah, écoute, je sais pas si tu as raison, je sais pas si tu as tort, mais clairement, il y a déjà des ajustements à faire du côté des Rams. T'sais, tu l'as dit, l'offensive des Rams, c'est Cooper Kupp. T'sais, en ce moment, il n'y a rien d'autre, absolument rien d'autre qui fonctionne. Puis oui, Cooper continue à avoir des bons matchs. T'sais, il est allé encore chercher au-dessus de 100 verges en fin de semaine, mais reste que pour les équipes, quand c'est juste un joueur que tu as à surveiller puis à éliminer, même si tu lui permets là, d'aller chercher là, des petits gains là, ici et là, puis quand tu additionnes tout ça, oui, ça donne un match de 100 verges, mais reste que c'est beaucoup plus facile d'avoir le dessus sur une offensive quand l'offensive, justement, c'est juste un joueur. Puis du côté des Rams, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller chercher Odell Beckham Jr. quand il va être en santé?
Ben, écoute, si t'es Odell, est-ce que tu veux te joindre aux Rams ou... Ouais, ça va prendre plus que ça. Ça va prendre plus que ça, parce que la ligne d'attaque demeure un problème. Comme je l'ai dit, le fait que t'as juste Aaron Donald qui applique la pression, ça va toujours être un problème. Puis si je me mets dans la peau d'Odell Beckham, là, je regarde la situation, je suis chez moi, j'ai beau jeu. Je regarde les Rams, comment ça va mal. Je regarde du côté de l'Américaine, les Bills de Buffalo, où un de ses meilleurs amis, Von Miller, justement, est rendu avec les Bills. Puis Von Miller, il dit aux médias de Buffalo qu'il est en contact régulièrement avec Odell. Moi, si je suis Odell, je vais m'acheter un bon manteau d'hiver, OK? Puis je déménage à Buffalo pour la fin de la saison, puis j'essaie de gagner un deuxième Super Bowl. T'es un ancien receveur de passe. Écoute, là, tu vas avoir l'occasion de jouer avec Josh Allen, qui en passant, a presque gagné 400 verges en première demi contre les Steelers dimanche dernier. Moi, je vais en faire direction Buffalo si je suis Odell. J'oublie Los Angeles. Il peut aller à LA durant la saison morte.
Oui, mais comme tu l'as dit, Odell, il va avoir le beau jeu. Qui va avoir de l'argent pour le payer? Puis, je pense que là, justement, il commence à avoir de plus en plus de leviers. Il va peut-être aller là où le contrat est le plus alléchant. Mais oui, il reste que tu as raison. Un receveur comme ça en fin de carrière va sûrement essayer d'aller vers l'équipe qui a les meilleures chances de remporter le Super Bowl cette année. Donc, les Bills seraient un très bon candidat. Il y a aussi Aaron Rodgers qui a dit publiquement à la télé, oui, je parle avec avec Odell régulièrement. C'est un
Odell
ami.
Parle à tout le monde, là, finalement.
Ouais, Odell a pas mal de chums ces temps-ci là, dans la ligue.
Ouais, il y a beaucoup de temps libre pour texter avec tout le monde aussi, là, vu qu'il joue pas, puis il se remet toujours il fait sa remise en forme de sa blessure. Alors, Odell Beckham, on a perdu Samuel encore une fois, mais on était rendu à la fin des sujets qu'on voulait aborder. Ah, ben écoutez, bon, on a eu des problèmes techniques tout au long de l'épisode, depuis le début de l'épisode. Bon, ben écoute, Samuel, je crois pas qu'il est en mesure de m'entendre. Mais écoute, on va passer au volet fantasy football. De toute façon, on était rendu là. Mais c'est vrai qu'Odell Beckham, il a bon jeu là présentement. Alors, on va accueillir, oui, Marc-André Chaloux afin d'écouter justement ses recommandations en vue de la 6e semaine d'activité au niveau du waiver wire. Alors, écoute, je te cède la place à Marc-André. Quels sont les joueurs que tu conseilles aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent de cibler au niveau du waiver wire pour la prochaine semaine?
L'ajout prioritaire, Didier, cette semaine, c'est Ken Walker, le porteur de ballon recrue des Seahawks de Seattle, parce que Rashad Penny s'est fracturé un tibia dimanche dernier contre les Saints. Donc, Ken Walker, vraiment, c'est un ajout prioritaire. On parle ici de potentiel, de le league winner en anglais, donc de gagnant fantasy. C'est qui Ken Walker? C'est un choix de deuxième ronde des Seahawks lors du dernier repêchage. C'était l'un des meilleurs porteurs de ballon de la QV 2022. Il a obtenu 36 touchés en 32 matchs au niveau collégial avec Wake Forest et Michigan State. Et Didier, c'est fascinant de voir à quel point les Seahawks marquent 25 points par game en ce moment, par match en ce moment. L'attaque des Seahawks offre 5,6 verges par course à leur porteur de ballon. Ça, c'est bon pour le premier rang dans la NFL. Donc, Ken Walker, ça sera peut-être pas aussi efficace que Rashad Penny, mais Ken Walker, pour moi, est un ajout prioritaire. Et pour la fin de la saison, il va être franchement utile. Donc, s'il traîne, il est disponible dans dans plus de 50% de vos ligues fantasy en ce moment, Ken Walker. Donc, Ken Walker. Et si vous avez, comme on appelle ça le FAB, si vous avez un budget à allouer aux joueurs autonomes, c'est le temps de dépenser votre budget aussi. On parle ici d'un joueur vraiment qui pourrait vous être fort utile jusqu'à la fin de la saison.
Oui, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. On sait que Pete Carroll veut courir avec le ballon. C'est sa priorité du côté de l'attaque. Et puis, le jeu arrière fonctionne avec Geno Smith. Alors, et Kenneth Walker, comme tu l'as dit, c'est un demi à l'attaque qui est talentueux. Ça m'a brisé le cœur de voir que Rashad Penny voit une autre de ses saisons être terminée en raison de blessure. Il est tellement talentueux, mais il n'est pas capable de rester en santé. On sait, c'est très taxant physiquement de jouer à la position de demi à l'attaque. Alors, une autre blessure qui met fin à une saison du côté de Rashad Penny. Maintenant, est-ce que tu as un autre joueur que tu nous recommandes de cibler?
Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
Penny, on attend aussi Raheem Mostert qui devrait se blesser sous peu. Hein? C'est toujours ça qui arrive.
Oui, il y en a comme ça, exact. Ouais.
Je vais vous parler du receveur des Patriots, Jacoby Myers. Pourquoi Jacoby Myers? Il est revenu au jeu après avoir raté 2 matchs en raison d'une blessure à un genou. Il a été ciblé 8 fois par Bailey Zappi. C'est l'action qu'on fait avec notre télécommande, donc Zappi. Donc, 7 réceptions, 111 verges, un touché pour Jacoby Myers. En fait, en format PPR, il est vraiment intéressant. Dans un format où on obtient des points supplémentaires pour les attraper, il a été ciblé 27 fois en 3 matchs, le 24 pour 261 verges. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est l'option la plus constante chez les receveurs des Patriots, même si le volume de passes est quand même bas. Donc, je pense que Jacoby Myers, écoutez, je vis les mêmes affaires que vous autres. Hein. J'ai de la misère avec Allen Robinson. Si j'avais mis une autre personne, un autre joueur que Allen Robinson dans mon flex, j'ai perdu une semaine par un point cette semaine. Puis je vis les mêmes déceptions que vous autres. Puis je le vois, Allen Robinson, avec ses manches longues, courir des tracés avec les Rams. Puis il n'obtient pas de ballon. Je le vois, le numéro 1, qui a plus l'air d'un numéro 2. Pour moi, je suis fâché. Donc, Jacoby Myers, c'est une excellente solution de recherche.
De cœur.
Ah, man. Avec ses manches longues.
Comme ta session de thérapie, là, en ce moment. Mais pourquoi ses manches longues? Qu'est-ce que c'était quand ses manches longues?
Ben, je sais pas, c'est le seul qui a des manches longues. Il est facile à regarder. Puis, Matthew Stafford ne vit jamais le jour avec les manches longues. Bref, un numéro 1 quand même. Il y a le numéro 1, je trouve que c'est un numéro 2 en ce moment parce qu'il me fait. En tout cas. Bref. Jacoby Myers, c'est une option, surtout en PPR, c'est une option constante, c'est une option intéressante pour vous.
Écoute, je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont repêché Allen Robinson ben, ressentent exactement la même chose que toi en ce moment. Il devait juste hocher de la tête pendant que tu faisais ta montée de lait sur Allen Robinson et ses manches longues. Maintenant, tu as un autre receveur que si jamais là, vous avez Allen Robinson et qui a le potentiel peut-être de remplacer Allen Robinson au sein de votre équipe Fantasy Football.
Si j'avais fait jouer Alec Pierce des Colts dimanche, j'aurais gagné ma semaine Fantasy. Je vous ai parlé quand même brièvement d'Alec Pierce la semaine dernière, mais je veux vraiment m'attarder sur son cas. Il est vraiment la cible de prédilection en ce moment de Matt Ryan. Son utilisation augmente de semaine en semaine. Il a commencé par être ciblé 2 fois la première semaine, puis 5 fois, puis 6, et maintenant 9 fois dimanche dernier. Contre les Broncos. Il a obtenu 81 verges. Il avait obtenu 80 verges la semaine précédente, donc 2 semaines de 80 verges. Et 8 points, c'est tout ce que ça m'aurait pris pour battre au lieu de Allen Robinson. Donc, son utilisation augmente. Il est présent maintenant dans 75% des jeux des Colts. C'est vraiment intéressant. Il est vraiment ciblé davantage. La progression est belle. Et oui, les Colts affronte Jacksonville cette semaine. Donc ça, c'est un affrontement quand même correct. Mais par la suite, ça s'en vient appétissant. On a les Titans, on a Washington, les Commanders, qui sont respectivement premier et quatrième dans la NFL pour les points accordés aux receveurs adverses. Donc, c'est une option quand même à moyen terme, Alec Pierce. Puis, c'est vraiment une option intéressante pour vous.
Ouais, ça commence à devenir personnel entre toi et Allen Robinson, je trouve. Maintenant, tu as un ailier rapproché que tu crois que ça vaut la peine là, d'aller chercher sur le waiver wire.
On est toujours à la recherche de production à la position de l'ailier rapproché. C'est un défi à chaque semaine, Didier. Je veux parler de Aiden Hurst des Bengals de Cincinnati. Il est quand même une partie intégrante d'une attaque avec qui a un bon volume par la passe. C'est parfois difficile de regarder l'attaque des Bengals, en ce moment un peu comme Star Wars Last Jedi, mais Aiden Hurts a été ciblé au moins 7 fois lors de 3 de ses 5 matchs cette saison, donc ça on aime ça pour à la position d'aller rapprocher, il a un touché dans 2 matchs de suite, et il est ce qu'on appelle un streamer en anglais, c'est une bonne solution à court terme pour la prochaine semaine. Oui, c'est contre les Saints. Ils ont supposément une bonne défense, même si ça a été un festival offensif contre les Seahawks. Mais j'aime Aiden Hurts, encore là, une solution à court terme pour remplacer des ailiers rapprochés qui ne fonctionnent pas dans vos pools. Je suis convaincu que vous avez ce problème-là, en tout cas certains d'entre vous.
Oui, écoute, et puis tu as préparé également, tu as regroupé d'autres joueurs, que ça vaut la peine, des joueurs, bon, c'est peut-être pas aussi évident que ceux que tu viens de mentionner, mais que ça vaut peut-être la peine si on a de la place sur notre banc. Si on a un joueur qui est sur le banc puis à toutes les semaines, il nous donne un zéro ou seulement 2-3 points en termes de production de fantasy football, gardez-le pas là. Remplacez-le par un autre joueur, vous savez pas. Il y a peut-être un joueur là qui a un diamant caché en quelque part. Alors, quels sont ces joueurs-là que tu nous recommandes de cibler?
Je vais vous parler de Eno Benjamin. Pourquoi? Parce que James Conner, Jonathan Ward et Daryl Williams n'ont pas terminé la rencontre pour les Cards face aux Eagles. C'est une situation vraiment à surveiller cette semaine. Et si ces joueurs-là ne jouent pas, ce sera Eno Benjamin qui sera le porteur ballon numéro 1 dans le champ arrière des Cards. Il a obtenu 11 opportunités la semaine dernière, 53 verges totales. Il a obtenu un touché contre les Eagles, donc ça, c'est à surveiller. Je veux revenir sur Mike Boone. Il est clairement derrière Melvin Gordon chez les Broncos, mais il a obtenu 85 verges sur 10 opportunités jeudi dernier. Il a quand même joué 30 jeux contre 41 pour Melvin Gordon. Et personnellement, je le trouve vraiment plus explosif. J'ai parlé de la semaine dernière de sa moyenne de verges par course qui était au-dessus de 5. Je trouve vraiment que... Il est encore au-dessus de 5 jeudi dernier, Mike Boone. Donc, vraiment, ça demeure un joueur que vous pouvez faire pire dans votre flex ou sur votre banc en ce moment. Donc, peut-être ajouter Mike Boone qui va probablement coûter moins cher cette semaine ou il va se retrouver sur plusieurs fils de joueurs autonomes dans certains de vos pools. Je vais vous parler de Zay Jones. Il est revenu au jeu. Zay Jones, il a été ciblé au moins 8 fois cette saison dans 3 des 4 matchs auxquels il a pris part. Il a été ciblé 8 fois, donc dimanche, mais il a capté seulement 3 passes. Mais mon point ici, c'est que Trevor Lawrence le regarde. Donc, Zay Jones, et la semaine qu'il n'a pas joué, Zay Jones, celui qui a embarqué dans son rôle à sa place, ça a été Jamal Agnew, et on se souvient, il a obtenu 2 touchés. Jamal Agnew, cette semaine-là, c'était contre les Eagles, si ma mémoire est bonne. Et je voulais vous en ai parlé longuement la semaine dernière, je vais vous parler de George Pickens, qui l'histoire d'amour avec Kenny Pickett, ça continue, hein? Notre Dieu que pour lui, George Pickens, ciblé 8 fois encore cette semaine en format PPR, il a inscrit 14 points, donc ça commence à être une option utile pour des joueurs, comme moi je vous parlais encore, je reviens à mes situations, j'ai Chris Olave qui, selon moi, risque de pas jouer, je peux embarquer dans un PPR, George Pickens, puis je me sens quand même assez confortable. Et j'ai pas le choix de parler de Taysom Hill, il a obtenu 4 touchés. Ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours contre les Seahawks. Je pense qu'on parle de boom or bust, hein, tout ou rien en anglais. Je pense qu'il va y avoir plus de rien que de tout dans le cas de Taysom Hill. Mais encore là, si Chris Olave, il a quitté le match en raison d'une commotion, s'il ne joue pas cette semaine, ça peut-être encore ouvrir la porte à Taysom Hill et Jameis Winston aussi. Hein, c'est un dossier à surveiller. Et ça peut quand même ouvrir la porte à Taysom Hill pour peut-être avoir d'autres tours dans sa manche, d'autres cartes dans sa manche pour sortir des jeux un peu. C'est souvent des courses, hein, dimanche. Donc, j'imagine qu'on va se préparer en conséquence.
Par la passe.
Exact. J'imagine que l'équipe adverse va se préparer en conséquence, mais quand même, il faut souligner que Taysom Hill, vous pouvez faire pire peut-être à la position de les rapprocher, mais soyez pas surpris qu'il vous fasse 3 points cette semaine. Mais ça a été vraiment une performance tout simplement incroyable. Récupérer un échappé également, il a retourné des bottés. Bref, ça a été incroyable.
Oui, généralement, là, au cours des dernières années, il y a tout le temps peut-être 1-2 matchs par saison où est-ce que Taysom Hill explose de cette façon-là. Mais les Saints en avaient tellement besoin. Là. Comme tu l'as dit, ils ont perdu le service d'Olave. Ils avaient besoin d'une étincelle en attaque et il leur a donné cette étincelle-là. Mais comme ceci bien dit, on ne va pas affronter la défense des Seahawks à tous les jours. Mais petit conseil, peut-être football toutefois, si vous avez des joueurs qui affrontent soit la défense des Seahawks ou celle des Lions, faites-les jouer. Insérez-les au sein de votre formation partante. Ces deux défenses-là sont tout à fait pourries. Alors, écoute, là, c'est toujours un festin en termes de fantasy football contre la défense de ces deux équipes-là. Ben écoute, Marc-André, je te remercie. On a fait le tour. Je remercie également Samuel Giguère. Désolé pour les gens qui ont écouté ou regardé. On a eu quelques pépins, quelques problèmes techniques avec Samuel. Mais écoutez, j'espère tout de même que vous avez apprécié cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Et on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, le podcast sera enregistré et mis en ligne mercredi, exceptionnellement. En fait, pour les deux prochaines semaines, ça va avoir lieu le mercredi, étant donné qu'il va y avoir des entraînements des Alouettes le mardi et que je ne peux pas encore être cloné, donc je ne peux pas être à deux endroits en même temps. On va donner la priorité aux entraînements des Alouettes le mardi et on va se croiser les doigts. Ils vont être en mesure de se qualifier pour les éliminatoires vendredi à Ottawa.
Ouais, je vais te laisser aller aux pommes. Je vais te laisser aller aux pommes, Didier. Là, je vois que tu es prêt.
Ouais, ben oui, ben c'est ça. Je vais mettre mon capuchon. Je vais y aller. Je suis prêt pour aller aux pommes avec mon hoodie. Alors, parfait, je vais t'en ramener dans la salle des nouvelles.
Une sac de Macintosh, s'il te plaît.
Sac de Macintosh, parfait. Demandez, je vais te livrer ça. Allez, ouais, parfait. Donc, bonne fin de journée, Marc-André. Et pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, eh bien, on se reparle la semaine prochaine.